Effectivement, édition spéciale ce matin du Secret des Sources après l'arrestation de Salah Abdeslam. Une traque de 4 mois, 4 jours. Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe et suspect clé des attentats de Paris du 13 novembre, a été capturé hier à Molenbeek avec 4 autres personnes, un complice, Amine Choukri, et les 3 membres de la famille qui l'hébergeaient. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. On l'a eu, annonce sur Twitter du secrétaire d'État belge à la migration Théo Franken, un tweet qui a ensuite été retiré. Mais la longue cavale de Salah Abdeslam a connu un dénouement spectaculaire avec son arrestation hier après-midi. Une image tourne en boucle sur les chaînes de télévision, celle d'un homme en polo blanc, capuche sur la tête, tiré, traîné par les forces de police vers une voiture. Salah Abdeslam est soupçonné d'avoir joué un rôle clé dans les attentats du 13 novembre, la préparation, l'organisation et également les attaques proprement dites. Salah Abdeslam bouclé, titre Libération. Abdeslam capturé, une victoire contre le terrorisme pour le Figaro. On attend maintenant les réponses aux questions posées après les attentats du 13 novembre. Abdeslam bouclé, on en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Willy Le Devin, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste police-justice à Libération. Quentin Dickinson, bonjour.
Olivier, bonjour à tous.
Correspondant de Radio France et de France Culture à Bruxelles. Et en cours d'émission, nous serons en ligne avec Louis Caprioli, ancien patron de la DST, Frédéric Ancel, géopolitologue et professeur de relations internationales, et Donia Bouzard, anthropologue également. Notre regard extérieur aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias. Bonjour Fabrice.
Bonjour Frédéric.
On évoquera avec vous la question de l'extradition de Salah Abdeslam et de son procès. Pourra-t-il être jugé en France? Dans les coulisses de l'émission, Mathias Migy, Vincent Abouchard, avec aux manettes ce matin Edouard Rubinstein. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Il est 18h. La police belge donne l'assaut dans une rue de Molenbeek. Sur la droite, on aperçoit les policiers maîtriser un homme au sol. Il est blessé à la jambe. Lors de l'opération, deux hommes seront arrêtés vivants. Tout avait commencé une heure plus tôt. Les policiers attendaient ce moment depuis 4 mois et 4 jours. Ils progressent prudemment, sans bruit, dans une petite rue de Molenbeek. Leur cible, Salah Abdeslam, l'ennemi public numéro un, le terroriste des attentats du 13 novembre, qu'ils traquent sans relâche. Cette fois-ci, ils sont persuadés qu'il est là, dans cet immeuble. Il est 16h40. Ils ne défoncent pas la porte. Ils continuent d'avancer doucement. Ils savent que l'homme est dangereux et ils pensent qu'il n'est pas seul. La tension est extrême. Les policiers ordonnent aux passants et à la presse de reculer. Les policiers ne veulent laisser s'échapper personne. On entend la police qui demande aux terroristes de se rendre. Sortez les mains en l'air. Quelques instants plus tard, la police lance des grenades. Une heure plus tard, un échange de tirs très nourri. À droite, on aperçoit les policiers maîtriser un homme. Il est au sol, il est blessé à la jambe. Les policiers le menottent et le placent précipitamment dans une voiture. Dans l'opération, deux hommes ont été arrêtés. Sur cette image, il s'agit peut-être de Salah Abdeslam.
Voilà, reportage de Claude Sampère, diffusé hier soir dans le journal de 20h de France 2. Quentin Dickinson, notre correspondant à Bruxelles, ce reportage est assez surprenant. On voit la police belge, Quentin, intervenir, demander par haut-parleur à Salah Abdeslam de se rendre. Tout cela dans un quartier qui visiblement n'est pas bouclé, où la vie continue, et devant les caméras de télé, Quentin.
Oui, tout ça s'explique pour de très bonnes raisons. La première, c'est qu'effectivement, les médias étaient prévenus de cette opération. C'est ce qui fait que ce n'est pas par hasard que plusieurs caméras de télévision tournaient, que nous-mêmes nous étions sur place. Simplement, cette opération a été déclenchée dans l'urgence absolue parce que, comme vous le savez, un hebdomadaire belge avait fuité, avait brisé l'embargo que les autorités belges nous avaient imposé à nous, les médias. Et par conséquent, il devenait urgent d'avancer l'heure et le jour de l'intervention, qui était prévue d'ailleurs pour ce matin, ce samedi matin. Donc, ça s'est fait à la hâte et bien entendu, on a évacué un minimum de personnes. Le secteur de sécurité a été imposé très très vite, mais malgré cela, on a vu ces images absolument saisissantes de voitures qui continuaient à circuler dans la rue, de passants qui passaient à côté des unités d'intervention casquées et armées jusqu'aux dents, et puis de gens dans les magasins alentours, dans la pharmacie qui se trouvait dans le bâtiment voisin. Tout ça, la vie continuait comme si de rien n'était.
Et cette intervention, comme vous dites, alors que la vie continue comme si de rien n'était, où nous sommes, nous journalistes de première loge, comment ça faire débat en Belgique ou pas du tout? Parce qu'en France, c'est quelque chose qui nous a été reproché à nous, journalistes français.
Oui, enfin non, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat en Belgique parce que les gens font preuve d'un soulagement extrême. Vous savez, ce pays vit au niveau 3 de l'alerte depuis de nombreux mois. Ils ont connu à Bruxelles le niveau 4, le niveau plus élevé d'alerte. Aujourd'hui, on est habitué à voir des patrouilles circulaires, la vue de camions bâchés militaires garés sur le trottoir devant les bâtiments officiels ou les bâtiments sensibles. Aujourd'hui, ça fait partie du pays. Et donc, il y a un vrai soulagement quand on apprend cette arrestation, même si, nous aurons peut-être l'occasion de le dire dans le courant de cette émission, même si Abdeslam, au fond, a été un peu un monstre créé de toutes parts par nous, par les médias et par d'autres, alors que, en fait, c'est probablement un rouage indispensable, mais ce n'est pas un meneur, ce n'est pas lui qui est le commanditaire des opérations sanglantes de Paris et d'ailleurs.
Willy, le devin de Libération, je vous vois acquiescer. C'est un terroriste flambeur et pas un personnage, pas le commanditaire.
Depuis le début...
Terroriste flambeur, c'est le titre de votre article dans Libé ce matin.
Ouais. Depuis le début, les enquêteurs, effectivement, s'interrogent sur son profil. C'est quelqu'un qui, avant de participer à l'opération du 13, était qualifié de flambeur, effectivement. Il avait, avec son frère, ils étaient tenanciers d'un bar à Molenbeek où le cannabis s'échangeait en forte dose. On le dépeignait également comme quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait la fête, qui aimait la nuit bruxelloise. Donc effectivement, c'est pas tellement les canons de l'islamisme radical. On s'est également demandé quel était son rôle dans l'opération. Est-ce qu'il était destiné à mourir lui aussi en kamikaze ou pas? Il semble que la fin de sa traque où il se rend aux policiers ne décrit pas effectivement quelqu'un qui est dans l'état d'esprit de la mort en martyr.
On a pourtant retrouvé un gilet d'explosif en banlieue parisienne.
À Montrouge, oui, mais il n'y a pas ces empreintes digitales dessus. C'est celle de Bilal Hatfi et un ADN inconnu. Donc on ne sait pas encore bien à qui appartenait cette ceinture. Et on ne sait pas si Salah Abdeslam était simplement un logisticien destiné à amener les kamikazes sur le lieu des explosions ou plus que ça.
Quentin Higginson, après les attentats du 13 novembre et durant cette longue cavale, l'efficacité des services de renseignement belges a été mise en cause. Ce matin, c'est un succès pour la police belge?
C'est un succès pour la police belge, mais surtout pour la coopération policière entre la France et la Belgique. Effectivement, on a critiqué les uns et les autres parce qu'on n'avait pas vu venir les attentats, on n'a pas pu les empêcher, et que par la suite, on s'est aperçu qu'on avait affaire à une organisation tentaculaire, même si elle était en grande partie informelle, va-t-on dire. Alors, bien entendu, la critique est aisée. Le travail policier n'est pas facile dans ces conditions-là, d'autant plus qu'il y avait une masse d'éléments à traiter. Ce n'est pas qu'on manquait chez les policiers d'éléments, d'indices, mais il fallait les traiter simultanément. Et tout donne à penser que Abdeslam a échappé de peu aux policiers à plusieurs occasions. Il faut rappeler aussi les éléments de hasard qui ont émaillé ces derniers mois. Lorsque Abdeslam et ses complices étaient logés dans une planque à Skarbek, rue Henri Berger, qui servait un peu de laboratoire de fabrication d'explosifs, il a décampé très brutalement parce qu'il a détecté une activité policière dans le quartier. En fait, cette activité policière ne lui était pas destinée en quelque sorte. On recherchait un Tchétchène qui aurait été dans le quartier. Mais Abdeslam a pensé que c'était pour lui et il a décampé très rapidement. Effet de hasard. Effet de hasard également, mardi, à Forêt, lorsque les policiers venus pensaient-ils effectuer une perquisition quasi de routine dans un immeuble inoccupé, tombent nez à nez avec des terroristes probablement aussi surpris d'eux que d'avoir des policiers en face d'eux. Donc le hasard a joué dans un sens ou dans l'autre tout au long de cette affaire. Et voilà pourquoi je pense qu'il n'est pas très utile de charger la barque des policiers, de critiquer. La critique est facile dans ces cas-là et seul compte le résultat, et le résultat depuis hier il est là.
Oui, le divin spécialiste donc police et justice du journal Libération. Un mot sur les images dont on a entendu le récit fait par Claude Samper. Est-ce que vous êtes surpris par cette liberté de travail lors d'une opération quand même des forces de sécurité très importante et très risquée?
Oui, très surpris, oui. Les forces d'intervention en France dans ce type d'opération-là cantonnent les médias à de nombreuses centaines de mètres et il est effectivement impensable que des badauds puissent se trouver dans le magasin attenant à la porte de là où est sorti Salah Abdeslam. Moi, ce qu'on m'a également dit hier, et c'est le même son de cloche que Quentin Dickinson, c'est que il y a eu des fuites dans la presse belge, effectivement. L'opération a été précipitée. Elle devait plutôt se déclencher, d'après ce que j'ai compris, dans la soirée, voire dans la nuit. Ça aussi, c'est quelque chose de... Enfin, que des fuites policières ou judiciaires belges aient pu parler dans la presse au point de faire capoter une opération de cette envergure, moi, me sidère.
Oui, le devin, comment vous expliquez cette longue cavale de 126 jours, un peu comme vient de nous le dire Quentin Dickinson?
Bah, effectivement, il y a eu, c'est une enquête colossale. Le dossier d'instruction fait déjà des centaines de milliers de pages. Il y a énormément d'éléments à traiter venant de la coopération internationale avec les Allemands, avec les Hollandais, avec les Belges, avec les Grecs, avec les Turcs, avec les Américains. Ça fait énormément de flux d'informations à traiter. Il y a du renseignement qui arrive de partout. Pas mal de membres du commando ont de fausses identités, donc c'est extrêmement compliqué d'avancer et de retracer des parcours quand on ne sait pas exactement quelle est l'identité des protagonistes. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Salah Abdeslam est interpellé finalement à quelques mètres de son domicile historique. Et évidemment, on se demande quel a été son éventuel réseau de prise en charge à Molenbeek ou dans les autres communes qui jouxtent Bruxelles depuis 4 mois, où on imagine qu'il a pu être caché par des amis, par des connaissances, etc.
Ouais, le réseau d'aide est une question importante sur laquelle vont bien sûr travailler les enquêteurs. Nous sommes en ligne avec Louis Caprioli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien patron de la DST. Hein. Ces questions autour de l'efficacité de la police belge et de sa mise en cause, qu'en pensez-vous, Louis Caprioli?
Bah, si vous voulez, je sais que ces critiques ont plané tout au long de cette affaire. Hein. Je crois que d'abord les services belges sont confrontés, comme on l'a dit, à une masse considérable d'informations à traiter. Que c'est un service qui n'a pas la dimension des services français ou des services allemands. Et donc, effectivement, ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, on le voit sur le plan même judiciaire. Ils n'ont pas les mêmes avantages dans le cadre des gardes à vue. Donc, je crois qu'il faut relativiser l'échec des services belges. On mettra toujours en cause à la fois les services français et les services belges puisque l'attentat a été commis et que, j'allais dire, on n'a pas pu anticiper parce que c'est là la réalité. Ce que l'on redoute, c'est que demain se produise le même type d'opération. Et est-ce que les services européens, parce qu'il faut penser en termes européens, est-ce que les services européens ont les sources d'information, puisque la réalité, c'est de disposer des sources d'information ou des sources techniques bien placées pour anticiper ce type d'attentat. Et là, pour l'instant, si vous voulez, on peut effectivement s'interroger, parce que l'arrestation de Salah Abdeslam, elle est due à un concours de circonstances, à un appel téléphonique. Elle n'est pas due à une source qui est implantée et qui va balancer l'intéressé, puisque pendant plus de 4 mois, il est dans son milieu. Et de ce milieu, il n'y a pas de source d'information à l'intérieur. Donc là, ce qui est inquiétant aussi bien en France, en Belgique et dans d'autres pays, c'est peut-être le manque de sources humaines au sein de ces filières, au sein de ces réseaux, au sein de ces gens radicalisés.
Alors il y a le renseignement, il y a aussi l'opérationnel, et là je reviens à l'intervention d'hier. Est-ce que c'est un succès puisqu'il est arrêté, mais dans ce genre d'opération risquée, en général, on tire plutôt pour tuer, pour se défendre. Là, il y a une volonté de le blesser, de le prendre vivant. Est-ce que c'est pour un procès? Est-ce que les policiers ont ça en tête? C'est un ordre formel, selon vous?
Écoutez, là, j'ignore totalement les instructions qui sont données. Il est évident que si l'ensemble des forces d'intervention avaient été menacées parce que des grenades avaient été balancées, parce qu'on leur avait tiré à la Kalachnikov, la réaction aurait été beaucoup plus violente, hein, et on aurait peut-être tué. Le fait de l'avoir blessé, je crois que c'est une très bonne chose, hein. Si, parce que il apparaît qu'il n'avait aucune arme avec lui, et donc il n'y avait aucune chance de blesser ou de tuer. Donc c'est une bonne réaction des services d'intervention belges de ce côté-là.
Louis Caprioli, on sait qu'il y a bien sûr toujours des menaces d'attentat. Est-ce que l'arrestation de Salah Abdeslam pourrait inciter d'éventuels complices à passer à l'acte en représailles?
Moi, je crois que, si vous voulez, les terroristes s'inscrivent dans un tempo. Ils vont pas se précipiter pour, c'est-à-dire que c'est un frère qui a été arrêté. Les frères, il y a des frères qui sont morts à martyr. Lui a été arrêté. Et d'abord, lui, il est pas très glorieux, hein, comme l'ont dit les précédents intervenants. Il est pas mort à Paris. Moi, je suis persuadé qu'il n'avait pas préparé son exfiltration. On voit bien qu'il téléphone à un ami en lui disant, je vais te payer l'essence, je vais te payer, le péage. Donc c'est quelqu'un qui aurait dû mourir pour la cause en France. C'est un lâche, hein. C'est un lâche. Moi, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Salah Abdeslam, dans ses plans, préparait quelque chose ou pas? C'est ça, oui, qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts en Belgique et ailleurs, d'ailleurs, à monter de futures opérations? Je crois que des opérations de vengeance, je n'y crois pas. Pour l'instant, hein, ouais. Des opérations organisées de vengeance. Hein. Maintenant qu'un individu puisse monter une opération, peut-être, mais je ne crois pas un réseau, une filière se sacrifier pour un individu qui ne le mérite pas.
L'enquête débute, les interrogatoires aussi. Salah Abdeslam va être interrogé par les enquêteurs belges. Est-ce que les policiers français seront présents et pourront intervenir et orienter les recherches?
Alors écoutez-moi, je pense que les policiers français qui sont présents vont non pas à mon sens participer, parce que là on a un peu une violation. Hein. La France a délivré un mandat d'arrêt européen. Ce mandat d'arrêt empêche les policiers d'interroger quelqu'un. Normalement, on devrait lui notifier ce mandat d'arrêt. Hein. Donc là, je suis réservé. Par contre, dans la mesure où ils sont présents avec les enquêteurs belges, bah, ils vont les orienter avec la masse d'informations qui sont à leur disposition, que les magistrats instructeurs pourront leur faire passer. La question qui se pose, est-ce que la Belgique va prendre la décision de l'extrader rapidement, et dans le cadre du mandat d'arrêt européen, c'est extrêmement rapide, ou les enquêteurs belges vont vouloir l'entendre pour essayer de ramener le maximum d'informations concernant leur propre pays. Parce que j'allais dire, il y a deux types d'intérêts. Il y a les réseaux qui peuvent être en Belgique, et les enquêteurs belges ont besoin de savoir ce qui existe. Et puis il y a les intérêts français, c'est bien sûr d'interroger Salah sur cet attentat monstrueux du 13 novembre.
Merci Louis Caprioli, ancien patron de la DST.
Nous avons conscience que si cette arrestation est une étape importante, qu'elle n'est pas non plus la conclusion définitive, car il y a déjà eu des arrestations et il devra y en avoir d'autres, car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Et donc tant que nous n'aurons pas arrêté ou mis hors d'état de nuire tous ceux qui ont pu participer, contribuer, financer, entretenir le réseau terroriste qui a commis les abominables attentats, les actes de guerre du 13 novembre, notre combat ne sera pas terminé.
Quentin Dickinson, on vient d'entendre donc François Hollande hier à Bruxelles après l'arrestation de Salah Abdeslam. Quel va être maintenant le travail des enquêteurs? Les recherches vont se concentrer sur le réseau d'aide, c'est ça le plus important?
Oui, dans l'immédiat, évidemment, la suite est judiciaire, puisque Abdeslam est sous les verrous. Il est d'ailleurs privé de liberté, selon le droit belge. Il a été arrêté en flagrant délit. Il sera présenté à un juge d'instruction dans la journée. Et ce juge d'instruction devrait l'inculper pour ce qui est des faits qu'il devra démontrer qui ont eu pour théâtre le royaume de Belgique. Car si les faits qui sont reprochés à Abdeslam en France sont d'une gravité évidemment supérieure, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas rendu coupable de faits délictueux en Belgique. Et ceux-ci devront être listés et lui être signifié. Alors, je crois savoir que ce matin, il y a une coordination par téléconférence entre le parquet de Paris et le parquet fédéral belge pour voir comment on se répartit les tâches pratiquement. Et ensuite, Abdeslam rejoindra l'aile terroriste de la prison de Bruges, où on l'attend depuis de longs mois. Alors, la France effectue une demande d'extradition au titre du mandat d'arrêt européen dont on vient de parler. Les Belges ont déjà fait savoir qu'ils l'acceptaient bien évidemment. Et puis, on sera dans l'attente du transfèrement d'Abdeslam vers la France. Mais ceci ne sera pas très rapide en toute hypothèse.
8h34 sur France Culture, édition spéciale du Secret des Sources. Après l'arrestation de Salah Abdeslam avec nos invités, Willy Le Devin, Quentin Lekinson, Louis Caprioli, Frédéric Ancel et Denis Bouzard. Un point sur l'actu, les derniers développements avec vous, Catherine Dutu.
Alors, pour l'instant, Salah Abdeslam est toujours hospitalisé. Il a été blessé hier, nous l'avons dit, dans l'assaut à Molenbeek en Belgique. Il devrait passer 24 heures en garde à vue. Le juge français chargé de l'enquête doit de son côté émettre un mandat d'arrêt européen pour que le Français de 26 ans soit jugé en France. C'est ce qu'attendent les survivants du 13 novembre et les proches des victimes. François Hollande a indiqué hier qu'il s'attendait à ce que les autorités belges répondent le plus favorablement possible et le plus rapidement possible à cette demande d'extradition. Salah Abdeslam arrêté, c'est le seul des terroristes présents à Paris et à Saint-Denis encore en vie. Son rôle de logisticien est en partie connu des services de police. On l'a dit, il a sillonné l'Europe l'automne dernier pour rassembler les différentes équipes des assaillants du 13 novembre. C'est encore lui qui, quelques jours avant les attentats, avait loué des voitures et plusieurs logements en région parisienne pour les terroristes. Ce délinquant radicalisé qui n'a jamais combattu en Syrie a sans doute également convoyé le soir des tueries les kamikazes du Stade de France. Salah Abdeslam, qui avait abandonné une ceinture explosive au sud de Paris, dans le 18e arrondissement, n'a-t-il pas voulu ou n'a-t-il pas pu commettre un attentat suicide? Une question en suspens parmi d'autres. Elles sont nombreuses. Qu'en est-il de ses complices, de son ou ses commanditaires, certainement en Syrie? Pas de nouvelles, par exemple, de Mohamed Abrini, qui a en partie préparé les attentats avec Salah Abdeslam et qui était présent dans les voitures qui ont emmené les terroristes à Paris.
Merci Catherine Dutu. Hip-hop sur France Culture, American Balaya, extrait de son dernier album. Nous sommes en ligne avec Dunia Bouzard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Madame Anthropologue, et vous travaillez sur les dérives sectaires, vous dirigez le centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Un commentaire sur l'arrestation de Salah Abdeslam. Comment on passe de petit délinquant bruxellois qui vend du cannabis à terroriste? C'est un soulagement pour les victimes. Quel est votre commentaire là-dessus?
J'ai envie de dire que tous les jeunes qui passent à l'acte ou qui sont en préparation de passage à l'acte ces derniers mois sont ce qu'on appelle des profils classiques. Ce qu'on appelait avant des jeunes sans père ni repère, c'est-à-dire avec une structure familiale fragile, un espoir social faible, pas d'intégration à la loi.
Sonia Bouzard, là. Voilà, on vous entend à nouveau. Vous êtes de retour, Sonia Bouzard, Dounia Bouzard.
Alors, oui, Dounia Bouzard. Voilà. non, j'étais en train de dire que ça correspond à ce qu'on appelle les profils classiques. Donc, ceux qui passent à l'acte aujourd'hui ou qui sont en préparation de passage à l'acte, c'est des profils qu'on étudie depuis 15 ans. C'est-à-dire des jeunes qui ont effectivement pas intégré la loi et qui vont trouver dans la radicalité une justification de recherche de toute puissance et qui peuvent effectivement passer de la délinquance ou du trafic de drogue au radicalisme. C'est un cas classique que je crois beaucoup de chercheurs ont étudié.
Alors vous avez développé une méthode expérimentale de déradicalisation, vous êtes chargé de la mettre en œuvre et de la diffuser. En quoi consiste cette méthode, Dounia Bouzard?
Si vous voulez, il faut partir du principe que le discours radical, en fait, fait miroiter une illusion aux jeunes, une illusion sur le fait que finalement, on lui fait croire qu'il va être en mission divine, que Dieu l'a choisi pour établir un. Cette illusion, elle est adaptée, elle est individualisée ces deux dernières années. C'est-à-dire qu'avant, Al-Qaïda avait donné un type d'illusion, celui de détenir la vérité et d'un monde utopique qui serait dirigé par la loi divine. Là, par contre, l'embrigadement s'est individualisé, s'adapte, donne plusieurs types d'illusions. Et la déradicalisation, si je dois résumer finalement l'objectif, c'est justement que le jeune comprenne que ce qui lui est présenté comme une mission divine n'est en fait que sa problématique personnelle, c'est-à-dire que c'est lui qui a besoin de se venger, c'est lui qui rêve d'un monde utopique, c'est lui qui veut commander, éventuellement c'est lui qui a des pulsions meurtrières, c'est lui qui veut se rendre utile, mais ce n'est pas une mission divine. L'objectif de la déradicalisation, c'est de désacraliser sa relation au monde, en fait. Et pour ça, bien sûr, il y a plusieurs moyens. Nous, le CPDSI, on se sert énormément des repentis pour montrer finalement le décalage qui existe entre le besoin du jeune, que je viens de nommer, qui peut être pluriel, le mythe qui lui est présenté pour lui faire croire que ça va répondre à son besoin, et la réalité du projet de Daesh ou d'El Nosra, qui est un projet totalitaire d'extermination et de purification. Et quand vous montrez l'incohérence de ces trois niveaux finalement cognitifs, eh bien c'est là, en percevant ces incohérences, que le jeune va avoir des doutes et va pouvoir commencer une rétro-analyse qui dure longtemps et comprendre qu'effectivement, il n'est pas en mission divine.
Merci beaucoup, Dounia Bouzard, d'avoir été sur France Culture ce matin. Willy Ledevin, Salah Abdeslam, dans votre article ce matin, titré « Un terroriste flambeur », vous le dépeignez comme une personne paumée et fragile par certains côtés et à certains moments. Oui, ce qui n'excuse absolument rien, mais...
Oui, il y a effectivement des interrogations. Alors, on voit avec la multiplication des cas de radicalisation, effectivement, un échantillonnage qui tend à s'élargir avec l'arrivée, voilà, de profils nouveaux dans la radicalisation islamiste. Il y a une dizaine d'années, à l'époque de l'Afghanistan ou même au début de la guerre en Irak, c'était quand même des filières relativement resserrées qui évoluaient autour de noyaux qui pour certains avaient été plantés à l'époque des GIA en 95 avec l'Algérie. Là, effectivement, les frères Abdeslam semblent correspondre à une radicalisation plus, phénomène de radicalisation plus récent qui correspond à la guerre en Syrie et qui déborde, voilà, plus largement le cadre des filières islamistes traditionnelles. Ce qui étonne quand même avec les frères Abdeslam, c'est la vitesse à laquelle eux ont basculé dans quelque chose d'extrêmement violent au point, voilà, de commettre des attentats de cette ampleur.
C'est quoi, c'est quelques mois?
C'est quelques mois, c'est les services belges les avaient repérés il y a une dizaine de mois avant les attentats, donc ça fait maintenant 14 mois, comme commençant à se radicaliser, notamment Brahim, mais effectivement ça ne paraissait pas très très évident au départ pour ça là.
Parce que Salah Abdeslam n'est jamais allé en Syrie.
À ce stade, on n'a pas
la preuve. Il n'a pas été repéré.
A priori, on n'a pas la preuve qu'il est allé en Syrie, effectivement.
Frédéric Ancel est en ligne avec nous. Bonjour, Frédéric Ancel. Bonjour. Géopolitologue, professeur de relations internationales. Alors, l'arrestation de Salah Abdeslam, Frédéric Ancel, ne veut surtout pas dire que la menace terroriste est derrière nous?
Non, non. Au contraire, je dirais que c'est presque l'illustration du maintien du phénomène, peut-être même du maintien de la tendance à la montée en puissance du phénomène. Ça traduit aussi, et je crois que c'était très bien dit tout à l'heure par vos invités, par une vraie coopération entre la France, la Belgique et beaucoup d'autres États d'ailleurs. Là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'un concours de circonstances sans doute très très favorable, mais en même temps, la chance, ça se provoque, hein, et le hasard, ça se provoque. Et si vous voulez, dans la lutte antiterroriste, non seulement les États européens travaillent maintenant sérieusement ensemble, je dis sérieusement, en particulier depuis le massacre de Paris, puisque la France a tapé du poing sur la table, mais c'est vrai aussi avec beaucoup d'autres États, en particulier des États arabes et ouest-africains, dont on sait maintenant qu'ils sont particulièrement visés depuis déjà une bonne quinzaine d'années par le terrorisme. Donc je dirais que le phénomène, il devrait se poursuivre. Plusieurs variables explicatives de tous les types de terrorisme, d'ailleurs, sont sur la table. Effectivement, c'est un phénomène dont les racines sont toujours plurielles. Ça a été vrai avec le terrorisme de type anarchiste et nihiliste fin 19e, début 20e. Ça a été vrai avec, dans une large mesure, le terrorisme d'État à caractère fasciste. Ça a été vrai, bien sûr, avec le terrorisme rouge dans les années 60-70, hein, dont on a oublié qu'il a fait des dégâts absolument considérables en Italie, en Allemagne, au Japon, dans une moindre mesure en France aussi, dans les années 80. Bref, on a affaire à un phénomène multiple, mutant, en quelque sorte, face auquel il faut s'adapter et face auquel les démocraties sont en réalité très puissantes, très performantes, mais avec toujours un coup de retard. Par définition, le terroriste a toujours un coup d'avance, et c'est d'autant plus vrai que, en l'occurrence, on ne connaissait pas bien, avant ces 10-15 dernières années, ce nouveau terrorisme à caractère islamiste qui s'appuie à la fois sur les prérogatives d'un État ou d'un proto-État, appelez ça comme vous voulez, en tout cas qui assume aujourd'hui en Syrie et en Irak l'exercice du pouvoir pratiquement étatique, et en même temps qui reste extraordinairement, j'allais dire, fluide et qui parvient à utiliser tous les canons habituels du terrorisme, en particulier du terrorisme kamikaze. Donc la conjonction des deux est relativement nouvelle ces dernières années pour nos services de renseignement, pour nos politiques, pour nos diplomates dans une certaine mesure, mais on est en train de s'y adapter.
Alors vous dites les terroristes ont toujours un coup d'avance, mais ces individus pour lesquels la France est une cible, nous sommes une cible parce qu'on bombarde Daesh en Syrie ou en Irak, Frédéric Ancel, ou non, c'est un raccourci trop rapide et en fait on est une cible parce que c'est en raison de notre mode de vie, de ce que nous sommes, parce que on écoute de la musique, on va boire des coups en terrasse.
Exactement cela. C'est parce que nous sommes quelque chose et certainement pas parce que nous faisons quelque chose. Il faut lire avec beaucoup d'attention, il faut entendre avec beaucoup d'attention dans une lutte quelle qu'elle soit, l'adversaire ou l'ennemi. Sinon, bien évidemment, on ne comprend pas. Et ce qui est absolument fascinant avec les islamistes radicaux, et ça transcende les différents courants de l'islamisme radical, c'est que la France est pratiquement la quintessence du mal à cause de la Révolution française. Il faut bien comprendre que ces gens évoquent la Révolution française, qui a été un grand complot contre l'islam et en particulier contre les femmes musulmanes. Ça paraît complètement délirant, et n'empêche qu'eux y croient. Donc comprendre qu'ils s'appuient notamment là-dessus pour nous haïr. Parce qu'effectivement, on prend des coups en terrain. C'est-à-dire que nous avons un mode de vie qui ne correspond absolument pas au mode de vie totalitaire, et le terme vient d'être employé par la courageuse Dunia Bouzard il y a un instant, je viens de l'entendre, c'est tout à fait juste. Le totalitarisme, c'est évidemment qui caractérise avant tout l'islamisme radical. Bah, évidemment, c'est l'inverse des valeurs et du droit qui prévalent en France. La France, c'est la laïcité. laïcité, le terme n'existe même pas en arabe. La laïcité, une laïcité de combat, hein, c'est assez particulier, assez propre, à la France y compris, parmi les autres pays occidentaux. Les droits des femmes qui sont absolument similaires, en tout cas dans le droit précisément, et quasi totalement sur le terrain, même s'il manque encore quelques progrès sur le plan économique, mais cette égalité homme-femme, elle est absolument détestée. Au Bataclan, on danse tous ensemble, on chante tous ensemble, on transpire tous ensemble, on parle tous ensemble, et on boit éventuellement de l'alcool ensemble. C'est parfaitement ignoble pour ces gens-là, et il faut bien comprendre que la France est aussi le pays, à leurs yeux, typiquement pourri par la franc-maçonnerie, par les juifs. Là, on retrouve les vieux canons de l'extrême droite, même si ça n'en inspire pas directement. N'empêche qu'on retrouve cette espèce de schéma hallucinant, totalitaire et extrêmement violent. Et par conséquent, pour toutes ces raisons, on a aujourd'hui un islamisme radical qui se braque particulièrement sur notre pays davantage que sur d'autres pays anciennement colonisateurs, comme par exemple l'Angleterre, ou contre d'autres pays qui interviennent plus souvent que nous, je pense évidemment aux États-Unis. La France est, parce qu'elle est quelque chose, comme l'a dit récemment le Premier ministre Manuel Valls, beaucoup plus ciblée que d'autres pays par les islamistes radicaux.
Merci Frédéric Ancel, géopolitologue, professeur de relations internationales. Merci d'avoir été sur France Culture ce matin.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Moi, je pensais qu'il avait quitté la Belgique, qu'il était quelque part en Syrie. Hein. Le fait qu'il ait été capturé vivant, effectivement, c'est un grand soulagement et une très grande nouvelle pour nous. Il y aura un procès avec quelqu'un qui était directement impliqué, qui a une connaissance des faits et qui a une connaissance des complices et des commanditaires. Parce que pour rester 4 mois en Belgique, il a certainement pas réussi à faire ça tout seul. Quoi. On souhaite bien sûr que le procès ait lieu en France, hein. Qu'il y ait un vrai procès et que le procès ait lieu en France. Ce qui peut en ressortir, effectivement, c'est d'abord quand même, je pense qu'on aura des précisions sur le déroulement des faits, qu'on aura davantage d'informations sur les filières terroristes, les commanditaires, les raisons, les mécanismes de la radicalisation. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'éléments positifs apportés par le procès.
Voilà, on vient d'entendre Georges Saline, le président de l'association des victimes du 13 novembre. Fabrice Lorvaux, notre chroniqueur juridique, vous êtes avocat spécialiste du droit des médias. Alors on va évoquer les questions qui se posent après l'arrestation de Salah Abdeslam. Et tout d'abord, on vient d'entendre donc Georges Saline, Salah Abdeslam pourra-t-il être jugé en France, Fabrice?
Oui, alors a priori, la réponse est positive. La question est de savoir quand. On sait que M. Abdeslam a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Donc, étant donné qu'il a été arrêté en Belgique, la Belgique, du fait des accords européens, doit remettre effectivement ce terroriste à la France lorsque la France en aura fait la demande. Il est prévu certaines causes pour lesquelles le pays qui reçoit la demande, donc la Belgique, peut refuser. A priori, ces causes ne s'appliquent pas. On rappellera que dans un autre acte de terrorisme, celui du musée juif de Bruxelles, où le terroriste avait été arrêté à Paris, dans ce sens-là, la France a effectivement extradé vers la Belgique le terroriste. Donc, a priori, on ne voit pas les raisons pour lesquelles la réciprocité ne jouerait pas, mais il n'en demeure pas moins que cette décision d'extradition devra être rendue par une juridiction belge et que, a priori, il y a aussi des voies de recours en Belgique, donc M. Abdeslam pourra peut-être s'y opposer, et donc ça retardera le dénouement, mais a priori il sera extradé vers la France.
Et quelle peine risque-t-il?
Alors, la peine, elle sera fonction, bien évidemment, de ce que l'enquête et de sa culpabilité. Donc, a priori, si il est prouvé au cours de l'enquête qu'il a tué une ou plusieurs des 130 victimes du Bataclan, il risque la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté au minimum de 18 ans et qui peut être portée à 22 ans. Si au cours de l'enquête il est prouvé qu'il n'a fait que participer c'est lui qui a dirigé, la peine sera de 20 ans de réclusion criminelle. S'il n'a fait que participer, c'est en plus 350 000 000 euros d'amende. Si il a dirigé ou organisé le groupement, ça peut monter jusqu'à 500 000 euros d'amende.
Et alors, quelle cour d'assises ou juridiction sera compétente, Fabrice Lorvaux?
Alors, en matière de terrorisme, c'est une cour d'assises spéciale, c'est-à-dire spécialement composée par des magistrats professionnels. Pour le premier degré de juridiction, c'est 7. En cas d'appel, c'est 9. Et on doit rappeler que la cour d'assises normale n'est plus compétente depuis 86, puisqu'au cours d'un procès, là encore en terrorisme, pour une affaire de terrorisme, les terroristes avaient menacé les membres du jury populaire qui s'étaient désistés. Donc maintenant, on confie ça uniquement à des magistrats professionnels.
Quelle est l'importance alors de ce procès? Il y a deux volets. Le premier.
Oui, le premier, c'est au niveau institutionnel. Comme l'a rappelé Monsieur Ancel tout à l'heure, eh bien, c'est notre mode de vie qui a été attaqué. Aujourd'hui, une fois que la stupeur a été dépassée et que on a arrêté, il faut que nos institutions se remettent à fonctionner normalement. Et donc, il faut que ce monsieur bénéficie d'un procès équitable, parce que si effectivement on confond vengeance et justice, eh bien, on se mettra au niveau de la barbarie, alors qu'on veut effectivement protéger notre mode de vie et lutter contre la barbarie. Et donc, il bénéficie aussi de la présomption d'innocence, même si parfois c'est difficile à admettre, parce que aujourd'hui, comme l'a dit très bien Quentin Dickinson, on l'a décrit comme un monstre, parce qu'il a été, ça a été la cristallisation de cette attaque et de ce côté insaisissable. Voilà. Donc aujourd'hui, il est arrêté physiquement, il est entre les mains de la police, et donc il doit avoir le droit à son procès et que l'on établisse avec précision le degré de sa culpabilité. Il doit être condamné pour ce qu'il a fait et pas pour ce que ses complices ont fait.
Non, pas par vengeance, mais pour les victimes, ce procès est extrêmement important.
Oui, d'abord d'un point de vue général, puisque la justice, quelque part, c'est la nationalisation de la vengeance. C'est-à-dire qu'on prive à la victime la possibilité de se venger elle-même. Mais si on lui retire le droit, eh bien le sentiment demeure. Et donc, pour que la boucle, si j'ai envie de dire, soit complète, il faut effectivement que celui qui a nationalisé la vengeance mène l'opération jusqu'au bout. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Mais particulièrement en matière de terrorisme, ce procès est très important pour les victimes et les familles des victimes. On doit rappeler que pour le terrorisme, ces personnes ont été visées alors qu'elles n'avaient aucun rapport avec personnel avec les assassins. C'est le seul fait d'avoir été français ou d'avoir vécu selon le mode français qui leur a été reproché. Et donc il y a une sorte, ils ont été instrumentalisés, ces gens. On s'en est servi comme des choses. Et donc le procès va permettre de les reconnaître en qualité de victimes et de les réindividualiser.
Merci beaucoup Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Oui, le devin Libération, ce procès est essentiel. J'imagine qu'il va être très surveillé en Belgique, Salah Abdeslam, pour qu'il ne lui arrive rien.
Oui, c'est une question qu'on se posait hier. On a du mal à imaginer ce que sera ce procès, la couverture médiatique. On a aussi du mal à imaginer ce que va être le transfèrement, les conditions de sécurité. On sait qu'en France, il sera sans aucun doute classé DPS, détenu particulièrement surveillé. J'imagine qu'effectivement, des mesures seront prises pour éviter un suicide en prison, comme ça a pu être le cas, même si...
On parle de la prison de Fresnes, c'est ça, oui,
Je ne sais pas encore, si j'ai bien compris, totalement arbitré, mais il faut absolument, évidemment, éviter ce qui s'est passé avec Yacine Sali, qui était le terroriste qui a décapité son patron Hervé Cornara avant de projeter sa camionnette contre l'usine de Saint-Quentin-Fallavier et qui s'est suicidé en prison. Voilà, j'imagine que oui, toutes ces mesures vont être prises pour que Salah Abdeslam finisse dans une cour d'assises spéciale.
Merci à tous. L'émission se termine, une émission spéciale du Secret des Sources ce matin. Merci à nos invités, Willy Le Devin, spécialiste police-justice à Libération, Quentin Dickinson, correspondant de Radio France et France Culture à Bruxelles, Catherine Dutu, journaliste à France Culture, mais aussi également à Dounia Bouzard, anthropologue, Louis Caprioli, ancien patron de la DST, Frédéric Ancel était avec nous, géopolitologue et professeur de relations internationales, notre regard extérieur aujourd'hui qui nous a accompagné, Fabrice Lorvaux dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Edouard Rubinstein,